Ma radio.
Bonjour et bienvenue sur Ma radio. Nous sommes le jeudi 6 février de l'an 2014 et il est 18h. La semaine dernière, vous aviez rendez-vous avec Nicolas Guidici et vous revoilà aujourd'hui pour une seconde émission de Ma radio. Au fil de divers sujets, entre cinéma, musique, actualité locale, info et encore people, tout ce que vous voulez savoir se trouve sur Ma radio. Et tout de suite, l'invité du jour.
L'invité du jour.
Bonjour Monsieur François Guillaume, alors directeur technique de France Bleu Belfort-Montbéliard.
Bonjour.
On voulait savoir quel était votre parcours professionnel.
Je suis tombé dans le son assez petit. J'ai commencé par le monde du concert, du live, principalement des retours. Et je suis arrivé à la radio un petit peu par hasard en fait, voilà.
Et du coup, quelles sont les qualités requises pour exercer cette fonction ?
Eh ben, il faut pas mal de qualités. En fait, c'est un domaine assez large parce que la radio, ça nous emmène sur des concerts, des prises de son, du direct. On fait énormément de choses. Les techniciens sont même amenés à faire de la maintenance informatique et pas mal de tâches de maintenance commune. Donc, il faut être très diversifié.
Et du coup, votre fonction à vous, elle consiste en quoi exactement ?
Mais moi, je gère une équipe de 8 personnes, voilà, et donc mon rôle est un petit peu moins technique maintenant. Il est plutôt d'organiser toutes ces compétences, de gérer les opérations extérieures, les opérations exceptionnelles et le quotidien.
Du coup, le travail d'équipe est un facteur essentiel dans une radio ?
Oui, vraiment. C'est une équipe, mais il n'y a pas que la technique. Voilà, dans une radio, il y a en plus la partie animation, la rédaction. Il faut que tout le monde s'entende assez bien quand même pour fournir un produit qui est en fait avec beaucoup de compétences différentes.
Et le monde de la radio, en général, est-il toujours en évolution ?
Oui, ça évolue pas mal. Alors, on connaît la radio, voilà, il y a les ondes, mais on bosse énormément avec maintenant le multimédia. On est nous-mêmes une web radio, on propose du podcast et je crois qu'on va en proposer de plus en plus. Et tout ce qui est écoute délinéarisée est vraiment très, très importante.
Du coup, par rapport aux web radios, quel regard portez-vous sur l'émergence des web radios ?
C'est, je trouve, un super phénomène et c'est, voilà, c'est les radios libres des années 80 qui renaissent à ce moment-là. Je trouve que c'est chouette parce qu'on peut faire de la radio avec rien et ça ouvre plein de champs.
Et voyez-vous des différences importantes entre le son pratiqué d'une part à la télévision et celui que vous produisez à la radio ?
Bah, nous, on s'occupe que du son, on n'a pas d'image. Donc c'est vrai que déjà, on a le temps de s'y pencher. Et je pense, oui, qu'on a besoin d'illustrer par le son des choses plus difficilement parce qu'on n'a pas le support de l'image. Voilà, on doit montrer des choses sans que les gens les voient. C'est un peu plus compliqué.
Et avez-vous déjà eu envie de passer devant le micro, par exemple ?
Non. Raisonnablement, non.
Restez derrière, du coup.
Voilà.
Et quels sont, du coup, vos projets professionnels que vous envisagez ?
Rester dans la gestion des équipes, voilà. Rester dans des choses comme ça, plus de RH et peut-être de moins en moins de technique. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Et qu'est-ce que vous préférez, du coup, le plus dans la technique ?
Moi, je reste attaché au monde du retour, du ear monitoring. J'ai connu les débuts du ear monitoring et c'est vraiment le monde du retour et la relation à l'artiste est quand même quelque chose qui...
La relation à l'artiste,
ouais. Est vraiment super importante sur un plateau et je pense que c'est un rôle de l'ombre, mais très important.
D'accord. Bah, écoutez, on vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à nos questions.
Bonne émission, bonne continuation.
Merci beaucoup. Truth to Acid Rain.
Yeah.
C'était Atlantic Trails d'Acid Rain. Et tout de suite, la rubrique ciné. L'émission ciné. Bonsoir Pierre Jonquet, alors de quoi vas-tu nous parler ce soir ?
Bonsoir Anaïs. Au sommaire ce soir, deux films inspirés d'histoires vraies, deux champions des nominations aux récompenses, mais surtout deux films à fort potentiel émotionnel qui ont pour autre point commun de ne pas réclamer outrageusement la pitié de leurs spectateurs.
Mais avant, je crois que tu nous apportes une triste nouvelle.
Eh oui.
Because you know what I'm going to do next? I'm going to find her, whoever she is, I'm going to find her and I'm going to hurt her.
You were apprehended carrying details of the location of something codenamed the Rabbit's Foot.
I'm going to make her bleed and cry and call out your name.
What is a Rabbit's Foot?
And I'm going to kill you right in front of her.
Et oui Anaïs, tu le sais bien, tous les dimanches soirs sont sinistres, mais certains le sont plus encore que d'autres. Ceux, par exemple, où le Wall Street Journal annonce la mort de Philip Seymour Hoffman, acteur génial dont on vient d'entendre la voix suave dans cet extrait d'une célèbre scène de Mission Impossible 3, font partie de ces dimanches-là.
C'était pas Tom Cruise qu'on a entendu là ?
Oui Anaïs, c'était Tom Cruise, mais c'était surtout Philip Seymour Hoffman qui maintenant n'est plus là. Sniff, sniff, sniff.
Oh, c'est triste.
Oui, c'est triste et décidément, je ne me remets pas de cette bien triste nouvelle, au point de profiter de cette chronique pour revenir rapidement sur la vie cinématographique de celui qui restera pour beaucoup le propriétaire légitime de l'Oscar du meilleur acteur 2006 pour sa performance dans Truman Capote. Je crois qu'on dit Truman Capote en anglais. Enfin, quoi qu'il en soit... Twister, Boogie Nights, Le Big Lebowski, Magnolia, La 25e Heure, Cold Mountain, Bad Guy dans le troisième volet de la franchise Mission Impossible, Radio Star des 60s dans Good Morning England, vieux politicard cynique et désabusé aux côtés de George Clooney dans Les Marches du Pouvoir en 2011. Tu as vu Les Marches du Pouvoir, Anaïs ?
J'ai pas vu.
Tu devrais, en plus de George Clooney, il y a Ryan Gosling.
En plus.
Oui. Entraîneur de baseball aux côtés de Brad Pitt et Jonah Hill la même année. Ou plus récemment vu dans The Master ainsi que dans le second volet des Hunger Games, Philip Seymour Hoffman n'a cessé de séduire public et critique par son extraordinaire capacité de transformation, l'impressionnante malléabilité de son jeu et la systématique justesse de ses performances. Acteur fétiche et charismatique du réalisateur Paul T. Anderson, il était également devenu l'une des grandes figures de la scène théâtrale new-yorkaise. Metteur en scène et interprète à Broadway, il avait joué Tchekhov, O'Neill ou Miller, et notamment Iago dans l'Othello de Shakespeare. Sa mort, si malheureuse qu'elle soit, ne remet cependant pas en cause la production de la suite de la série des Hunger Games, puisque le studio Lionsgate rapporte qu'il avait déjà tourné la majeure partie des scènes du troisième opus, qui sera diffusé en deux parties au mois de novembre 2014 et novembre 2015. Les dates de sortie n'en seront donc pas affectées, contrairement à moi. Voilà, et du coup, les champions des nominations arrivent.
Solomon Northup est un grand virtuose du violon.
Je suis né libre. J'ai vécu à New York avec ma famille.
Passage avec ta mère.
Avant d'être trahi.
Ah, Solomon.
Enlevé et vendu comme esclave.
Voilà, après Lincoln, Cloud Atlas, Le Majordome ou encore Django Unchained, c'est 12 Years a Slave qui aborde la difficile thématique de l'esclavage, de la traite des êtres humains, en même temps que celle de la discrimination raciale. Réalisé par Steve McQueen II et inspiré d'une histoire vraie, le film est l'adaptation des mémoires éponymes de Solomon Northup, fils d'esclave affranchi, né libre, qui se retrouve réduit en esclavage pendant 12 ans dans la Louisiane des années 1840. L'intrigue se situe dans une période charnière et très particulière de l'histoire des États-Unis, durant laquelle esclaves affranchis et hommes nés libres étaient intégrés à la société des États du Nord, tandis que la servitude raciale était si fortement ancrée dans les États du Sud qu'un noir ne pouvait y être qu'esclave.
Je m'appelle Solomon Northup. Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer.
T'es pas un homme libre.
T'es rien de plus qu'un clandestin évadé de Géorgie.
Voilà, Steve McQueen et son équipe décrivent donc, avec un effort souligné de réalisme et de subtilité, cette période étrange et couverte de situations paradoxales où, tandis que Nord et Sud débattent de l'abolition de l'esclavage, les kidnappings d'individus noirs pour les vendre dans les États du Sud étaient une pratique sinon courante suffisamment répandue pour que le cas du Solomon Northup fût loin d'être isolé. Au casting, on retrouve Anaïs, Michael Fassbender, dont c'est la troisième collaboration après Hunger et le remarqué Shame, avec le réalisateur McQueen. Mais aussi et surtout Chiwetel Ejiofor, Lupita Nyong'o, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti ainsi que gros clin d'œil à Anaïs, Brad Pitt, qui est également producteur du film. Le scénario est de John Ridley, la photographie de Sean Bobbitt, et le tout est mis en musique par l'incontournable Hans Zimmer.
Je vais survivre! Je ne succomberai pas au désespoir! J'entretiendrai mes forces jusqu'à l'opportunité d'être libéré! Libre. Je ne suis pas un esclave.
Avec un budget relativement faible de 20 millions de dollars, la force du film repose principalement sur la performance de ses acteurs, Chiwetel Ejiofor en tête, ainsi que sur la réalisation froide et détachée de Steve McQueen, dont l'abondance des plans séquences serve le réalisme imperturbable et appliqué de l'œuvre, évitant ainsi le piège des envolées pathétiques et trop facilement émouvantes. Il y en a marre de pleurer un peu quand même.
Faut rigoler un peu quand même.
Ouais. Mais d'émotion, 12 Years a Slave n'en manque pas. Seulement, le traitement de son sujet en fait probablement l'une des références incontournables, car jamais l'esclavage n'avait été montré avec une approche aussi réaliste et sensitive. Le film ne cherche pas à attendrir son spectateur, à l'émouvoir démesurément, ou à lui en tirer un maximum de larmes à force d'élucubrations mélodramatiques. Il sait qu'il n'en a guère besoin, tant son message est fort.
C'est un très beau film, assez dur j'ai trouvé. Je trouve que l'histoire est vraiment bien racontée. Il y a des plans qui sont très durs aussi. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un très beau film.
Ben, c'est un très bon film, hein, qui prend aux tripes, comme on dit. Et voilà.
Et c'est une vérité qui a existé et qui ne fait pas honneur à l'humanité. Mais c'est vrai que c'est un film dur, mais c'est un film intéressant.
Bah, c'est un film dans la droite ligne des films de Steve McQueen, donc avec des plans très intéressants quand même, assez longs, même s'il est un peu plus facile d'accès quand même, je trouve.
De très belles images et un beau casting, des bons acteurs. Je suis beaucoup trop ému, ce film est magnifique.
Alors voilà des propos recueillis par Estelle Desniaux, Robin Housser et Axel Sakharovitch.
Oui, et même si les cahiers du cinéma regrettent le conformisme et la complaisance du film, ainsi que, je cite, « le manichéisme facile des pires machines à Oscar », 12 Years a Slave s'impose, comme on vient de l'entendre, comme un succès public et critique de bonne facture et, ayant déjà remporté de nombreux prix, parmi lesquels le Golden Globe du meilleur film dramatique, il compte avec 9 nominations parmi les favoris des prochains Oscars, dont la 86e cérémonie se déroulera le 2 mars.
Donc, 12 Years a Slave, un film à ne pas louper.
C'est ça.
Monsieur Woodruff, on vous a testé positif pour le VIH. Nous estimons qu'il vous reste 30 jours à vivre.
Il n'y a rien sur cette terre qui puisse tuer Ron Woodruff en 30 jours.
Voilà, alors pour parler du second film cette semaine, je commencerai, avec toutes mes excuses, par citer l'immense et incontournable Indila, qui chante depuis quelques semaines et avec le talent qu'est le sien, les quelques vers suivants. Une dernière danse pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence, ô ma douce souffrance, dans tout Paris je m'abandonne, et je m'envole, vole, vole, vole. Et donc non, contrairement à Indila, ce n'est pas à Paris mais au Texas que Ron Woodruff s'abandonne pour oublier sa peine immense, et c'est au Mexique qu'il s'envole, vole, 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 pour que tout recommence.
Ils ont de bons médocs au Mexique, c'est mieux que ce qu'on a ici aux States.
Et on peut pas les acheter aux États-Unis ?
Non approuvé, on pourrait y faire fortune avec ça.
Voilà, on parle bien sûr de Dallas Buyers Club, autre multi-nominé des Oscars, autre histoire vraie, celle cette fois-ci d'un cow-boy texan qui en 1986 refusa le diagnostic des médecins et décida de se battre non seulement contre sa maladie mais également contre le système de santé américain. Le principe est simple, Anaïs, comme les médicaments qu'on lui offre à l'hôpital ne donnent pas de résultats satisfaisants, il se rend jusqu'au Nouveau-Mexique, non jusqu'au Mexique tout court d'ailleurs, pour obtenir les drogues les plus efficaces. En cours de route, il rencontre Rayon, un travesti lui aussi atteint du VIH, avec qui il s'engage dans une entreprise de contrebande de médicaments pour soigner les malades à leur façon. C'est le Dallas Buyers Club, dont le succès, devenu gênant par son ampleur, conduit Ron Woodruff à s'engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales.
Vous importez des médicaments illégaux pour les vendre ?
Pas illégaux, non approuvés, c'est tout.
La grande qualité de Dallas Buyers Club, c'est celle de parvenir à placer l'histoire spécifique d'un individu des années 80 pour l'inscrire dans la grande histoire, celle des médicaments proscrits aux États-Unis. Sa lutte contre la maladie est couplée de sa lutte contre la FDA. C'est quoi la FDA,
Anaïs ? Bah, j'allais te poser la question.
C'est la Food and Drug Administration, qui est l'agence de réputation médicamenteuse américaine. L'anecdotique histoire de ce redneck homophobe qui se réinvente en dealer philanthrope rejoint donc la prise de conscience de tout un pays face au virus et face aux conditions du système de santé américain.
Vous traitez ces patients ?
Ils se traitent eux-mêmes. Je vends pas de la drogue, je vends des adhésions au club.
Yeah. Voilà, mise en scène par Jean-Marc Vallée, réalisateur canadien de Blacklist, Crazy, Victoria ou encore Café de Flore, Dallas Buyers Club n'a nécessité que 25 jours de tournage. Cet exploit assez rare au cinéma est majoritairement dû au parti pris de ne pas utiliser d'éclairage artificiel, un précieux gain de temps pour le montage des décors, mais également un parti pris esthétique, porteur de sens, qui facilite l'immersion du spectateur dans la réalité crue du Texas de la fin des 80s. Au casting, on retrouve l'acteur au nom imprononçable pour un français, Matthew McConaughey,
oui.
qui, dit-il, en avait marre de jouer les beaux gosses creux. Il donne la réplique à un Jared Leto méconnaissable en travesti homosexuel, et la performance des deux acteurs est complétée d'une performance physique impressionnante, puisqu'ils ont perdu à eux deux une cinquantaine de kilos pour incarner leur rôle respectif. Ils sont accompagnés de la jolie Jennifer Garner, dont la performance est moins remarquable, mais qui, quant à elle, a gardé tous ses kilos. Et Jared Leto ont donc d'ores et déjà gagné chacun un Golden Globe, dont on dit souvent qu'il constitue l'antichambre des Oscars. Oscars pour lesquels Dallas Buyers Club concourra avec 6 nominations, dont celui du meilleur film.
Bienvenue au Dallas Buyers Club.
Eh ben dis donc, ça donne envie de courir au cinéma tout ça.
Bah j'espère bien, Naïs. En tout cas, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, n'oubliez pas, comme le disait le bon Quentin... Au revoir, Anaïs.
Au revoir, Pierre. You think you're pretty 'cause you're covered in hate. But it's your soul that's slow and your body stinks. And you think you can lie to me. You think you can lie to me. You think you're cool 'cause you're always on. In the street, you're a piece of meat, your teeth are green. You think my face is long, but you couldn't be more wrong. So, thank you. I wanna be myself. Thank you. Don't wanna be like no one else. Thank you. Think I'm better by myself. Seen your face, it speaks to me. It says you're scared. It says you're really scared. And you think you're in cars. You're hanging with my friends. They know you, but they don't know you like I do. Like I do. Vous venez d'écouter la somptueuse chanson Bird with Four, Thank You. Et tout de suite, nous allons parler de jeux vidéo avec la chronique du geek.
La chronique du geek.
Bonjour Florentin Baume. Alors, quels sont. De quoi allez-nous vous parler ce soir ?
Eh bien, bonjour Anaïs. Alors, ce soir, dans la chronique du geek, nous allons bien évidemment parler de jeux vidéo, avec enfin nous sommes en février, la sortie de la PlayStation 4 au Japon. Et nous allons revenir sur une information qui a fait pas mal de bruit le week-end dernier, l'abandon de Watch Dogs par Ubisoft. Mais nous allons pouvoir dans cette chronique du geek parler un petit peu de bande dessinée, puisque le festival de bande dessinée d'Angoulême, alors que sa 41e édition s'est terminée le week-end dernier, celui-ci fera l'année prochaine une première place au Pixel. Et nous allons donc revenir sur le grand prix du festival qui a été décerné à Bill Watterson.
Bah alors, commençons tout de suite par les nouveautés jeux vidéo.
Alors oui, bien sûr, il ne reste que 16 jours avant son arrivée au Japon, alors qu'elle s'arrache déjà sur tous les autres continents. La PlayStation 4, de conception japonaise bien sûr, n'arrivera que le 22 février sur le pays du soleil levant. Cette date, nous la connaissions déjà, mais celle-ci marquera l'arrivée enfin de la nouvelle génération sur un territoire qui traditionnellement eut la primeur des machines Sony. Alors pourquoi faire attendre les Japonais 3 mois de plus ?
Bah pourquoi ?
Oui, c'est assez curieux, surtout que Sony, marque japonaise. Donc, brièvement, en 2 critères, on peut d'abord dire que le joueur japonais adopte pour le moment une attitude d'attente face aux jeux de lancement qui sont, pour le moment, on peut le dire, assez peu attractifs. Et la preuve, les réservations de ces jeux de lancement sont aujourd'hui plutôt mauvaises. En réponse à cela, le constructeur japonais place très peu d'espoir de vente, puisqu'il n'estime ne pouvoir vendre que 500 000 PlayStation 4 jusqu'à la fin mars, alors qu'il en a déjà vendu 700 000 en Europe juste le jour de la sortie de la PlayStation 4. Le constructeur Sony, donc, qui peine aujourd'hui à se relancer en plus, utilise ses moyens limités là où ils auront le plus d'impact, à savoir en Europe et aussi bien sûr aux États-Unis. Mais c'est aussi un vent de frayeur, lundi, qui s'est abattu sur les très nombreux joueurs qui attendent avec grande impatience le prochain titre du développeur français Ubisoft. Je parle bien sûr de Watch Dogs. Ce sont en effet les fameux forums Neo Gaming Age, les forums américains, qui ont mis en évidence un document issu du Bureau américain de contrôle des brevets et des marques qui stipule l'abandon de Watch Dogs par Ubisoft. Mais pas de panique, surtout pas de panique, hein, on rassure tout le monde, il est peu probable, voire même très peu probable qu'Ubisoft annule le développement de son jeu, ce jeu gigantesque, tant attendu, on peut même estimer que c'est en fait le jeu le plus attendu de la nouvelle génération.
À ce point, d'accord.
Ah oui, ouais, ouais. Alors la théorie bien sûr la plus probable, c'est celle selon laquelle Ubisoft envisage simplement un changement de titre. Et cette théorie a été bêtement confirmée par le développeur il y a quelques jours, suite aux sollicitations bienveillantes de jeuxvideo.com. On peut les remercier.
Oui, effectivement.
Ils ont rassuré un très
pour
grand nombre de joueurs.
Tous ces passionnés. Ouais. Mais tu voulais nous parler du festival de BD, il me semble.
Oui, en effet, puisque alors que s'est clôturée la 41e édition du festival de bande dessinée d'Angoulême, la 42e édition, l'année prochaine, donc, bien sûr, va accueillir pour la première fois une exposition d'œuvres numériques. Le festival de bande dessinée confirme ainsi son intérêt en fait, pour la création numérique, un an après le lancement, lors de la 40e édition, de la revue en ligne Professeur Cyclope. Dans celle-ci, une cinquantaine d'auteurs se sont rassemblés et ont collaboré pour expérimenter toutes les formes possibles de narration numérique. La lecture case par case, le défilement vertical, horizontal, ça peut être aussi des gifs animés. Bref, autant de procédés qui sauront d'autant plus attirer les lecteurs.
Mais alors, le Festival d'Angoulême, est-ce juste ça ou c'est autre chose aussi ?
Non, bien sûr, le Festival d'Angoulême, c'est de nombreux prix. Les Fauves, ce sont les prix donc, du Festival d'Angoulême qui sont décernés aux albums de l'année et à leurs auteurs. Mais c'est bien sûr et surtout un grand prix qui récompense un auteur pour l'ensemble de son œuvre. Et cette année, l'Académie des anciens lauréats a dû choisir parmi de très grands noms, écoutez bien Anaïs, puisqu'il y avait dans les nominés, Kino, Gene Van Hamme, Alan Moore, Cosset et même Marianne Satrapi, et bien évidemment le lauréat de l'édition 2014, Bill Watterson. Alors Bill Watterson, c'est bien sûr Calvin et Hobbes, ce turbulent petit garçon de 5 ou 6 ans, au caractère très affirmé et son infatigable compagnon de jeu, le tigre et peluche Hobbs, vivant tous deux d'innombrables et d'exaltantes aventures. Alors s'adressant simultanément à tous les publics, par sa richesse, sa finesse et son inépuisable drôlerie, la série des strips Calvin et Hobbs est le fruit de 10 années de carrière de son auteur Bill Watterson, qui a choisi de se retirer, il y a déjà 19 ans de cela, comme il est arrivé sur la pointe des pieds. Pour conclure cette chronique du geek, je ne peux que très fortement vous conseiller, à vous Anaïs, et bien sûr à tous les auditeurs et les auditrices, la lecture d'un tome, si ce n'est de tous, si vous le pouvez, des Calvin et Hobbes, parce que c'est absolument délicieux.
Et bah beaucoup de lectures alors pour le week-end qui arrive.
Voilà.
Bah, je vous remercie Florentin et à bientôt.
Merci beaucoup.
L'instant décalé.
Tout de suite, l'instant décalé avec Margot Malo. Bonsoir Margot.
Et bonsoir Anaïs, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, vous venez d'entendre Florentin qui vous a parlé de la PlayStation 4. Alors moi, j'ai trouvé la solution. Enfin, c'est la semaine dernière que j'ai vu ça. Il fallait que je vous en parle absolument. Alors, pour acheter la PlayStation 4, alors est-ce que vous avez une idée, Anaïs, de comment l'acheter, sachant qu'elle coûte extrêmement cher ?
Bah, oulala, à part vendre... Oulala, non, j'ai rien dit.
Non, mais vous auriez mieux fait de le dire. Il y a des hommes qui ont décidé, enfin, qui ont essayé de vendre sur le bon coin leur femme. Alors, c'est en particulier un homme qui a essayé de vendre sa femme pour le prix de 600 euros, tout à fait. Et il a posté donc une photo avec lui dormant dans son lit avec sa Play 4 et sa femme dormant par terre. Il a même ajouté en bas, prix à débattre dans la limite du raisonnable, très peu servi. Bon, je rassure tout le monde, les administrateurs de ce site ont supprimé l'annonce avant même qu'un acheteur ait pu la voir. Donc bon, pour tous les féministes et tout ce qui s'ensuit, vous inquiétez pas. Bon alors par contre, si vous n'avez pas de femme, que vous ne voulez pas la vendre ou que vous êtes tout simplement une femme qui n'a pas de femme, vous pouvez éventuellement vendre vos cheveux. Alors, est-ce que ça t'intéresse, Anaïs, de vendre tes cheveux ? Parce que je peux t'expliquer comment ça marche. Hein.
Bah écoute, s'il vaut cher, pourquoi pas ?
Voilà, alors justement, je t'explique en 2-3 mots. Alors, Michael Jackson, la famille de Michael Jackson a vendu ses cheveux à l'époque à une société qui s'appelle Life Gem aux États-Unis. Et en fait, cette société s'occupe de transformer vos cheveux en diamants.
C'est pas mal, ça.
Bah écoute, c'est plutôt génial. Alors, ça prend quelques mois. Et en fait, je pense que ça coûte plus cher de les faire faire que d'avoir le diamant après. Donc, je suis pas sûre que ce soit très rentable. Mais bon, éventuellement, pour les gros fans de jeux et qui estiment qu'ils n'ont pas plus besoin de leurs cheveux, bah écoutez, pourquoi pas. Il y a une entreprise juste à côté de chez nous en Espagne qui s'est lancée dans le truc. Les fortunés sont très, très... aiment beaucoup ce délire-là et vont sans doute se lancer. Donc pour les moins fortunés, si vous voulez toujours essayer d'aller demander un diamant contre vos cheveux, vous pouvez toujours essayer. Donc voilà. Donc avec toutes ces infos, vous pouvez peut-être vous acheter bientôt la Play 4. Voilà.
Merci Margot pour ces infos originales.
Eh bien, avec grand plaisir, bonne soirée et bonne soirée à tous les auditeurs.
Tout de suite, les infos avec Mathias Boss. Bonsoir Mathias.
Maintenant, les infos.
Alors, quelles sont les actualités du côté de la Franche-Comté ?
Alors, tout d'abord, entreprise. Une nouvelle charte de qualité. La charte de commerce et d'industrie du Doubs a reçu ce lundi 3 février les lauréats 2014 de la charte de qualité. 42 entreprises du Grand Besançon ont été récompensées. En 2013, seulement 23 entreprises avaient été retenues. Ce label récompense les commerçants, artisans et prestataires de services qui reçoivent du public pour leur qualité d'accueil, d'écoute et de conseil après une évaluation par un client mystère. Aide à la création d'entreprises. Le Doubs organise du 3 février 2014 au 2 avril 2014 une formation à la création d'entreprises. Construire son projet en pluri-activité. Avec le soutien du Conseil général de Franche-Comté et du Fonds social européen. Une durée de 200 heures de formation qui permet aux stagiaires de travailler leur projet d'entreprise afin de maximiser leurs chances de réussite. Les différents statuts sont également étudiés. La formation est accessible à toute personne habitant en Franche-Comté, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi.
Et si on parlait un petit peu de sport maintenant ?
Alors, sport, ski, transjurassien. L'enneigement est arrivé plus tôt sur les montagnes du Jura. Des skieurs de fond, amateurs et élites, ont participé à la plus grande course de ski de fond de France. Transorganisation a annoncé une augmentation du nombre de participants de 11% par rapport à l'édition 2013. Le 4 février, il y avait 4818 skieurs inscrits. 28 nationalités étaient déjà représentées sur les différentes courses. 62 femmes de l'association Skier pour Elles s'élanceront sur les pistes pour la lutte contre le cancer. Rallye sur glace. Du 2 au 5 février 2014, s'est déroulée la 60e édition du rallye neige et glace du Haut-Doubs. Les 100 équipages et leurs voitures se sont élancés le dimanche 2 février. Les participants ont parcouru plus de 1000 km. Le rallye de neige et glace n'est pas un rallye de vitesse, mais un rallye de régularité. Les concurrents ont dû rouler à une vitesse moyenne durant tout le parcours.
Merci Mathias pour toutes ces informations et rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'actualités.
La semaine prochaine.
La météo.
Et tout de suite, la météo avec Violaine Genion. Bonjour Violaine.
Bonsoir Anaïs. Eh bien, vendredi, il va pleuvoir toute la journée avec un ciel très couvert, un vent très fort qui va souffler jusqu'à 70 km/h et des températures qui tourneront autour des 8 voire 9 degrés. Samedi, le matin, il y aura des nuages, mais l'après-midi, on peut espérer quelques éclaircies, mais toujours avec beaucoup de pluie. Quant à dimanche, les nuages seront présents toute la journée, peut-être avec quelques éclaircies, mais un risque de pluie et de neige, avec des températures de 3 à 5 degrés. Attention, toutes les températures seront ressenties plus froidement ce week-end.
Eh bien, il va faire froid ce week-end alors. Vous écoutez Last Train, She's Got Your Soul. We'll be right back. C'était le somptueux groupe de rock Last Train avec une chanson.
120 secondes, People.
Et tout de suite, les 120 secondes People avec Cassandra Combé.
Salut Anaïs, bonsoir à tous. Alors ça y est, c'est enfin le mariage de Johnny Depp et sa jolie Amber. Après des débuts un peu difficiles, ils vont se dire oui, mais attention, pas n'importe où, aux Bahamas, et plus exactement sur son île privée. Et évidemment, pas besoin de prendre un billet, hein, si t'avais l'idée de s'y rejoindre, c'est pas possible.
Pas tout de suite, non.
Ça va se passer très intimement, à la cool, donc voilà. Et en parlant de mariage, connais-tu Elisabeth Tessier ?
Bah dis-moi qui c'est.
Eh bien c'est une astrologue et tu sais ce qu'elle vient de prédire? Un mariage en août 2014 pour François Hollande et Julie Gayet. Ce qu'il en sort en premier lieu, c'est que le ciel de Monsieur Hollande montre une allergie au mariage. Évidemment, Ségolène Royal, son ancienne compagne, ne démentent pas. Nous allons donc attendre cette date avec impatience pour en savoir plus.
L'astrologie, on y croit, on n'y croit pas.
Ah, ça dépend du ciel ma foi. Et donc, au contraire, c'est la déchirure dans la famille de Woody Allen. Il y a quelque temps, une lettre ouverte de Dylan Farrow a accusé son père de l'avoir agressé sexuellement. Évidemment, celui-ci a démenti les paroles les qualifiant de fausses et honteuses. Mais aujourd'hui, son fils adoptif vient de lui porter secours en exprimant dans un journal américain qu'il n'avait pas abusé de sa sœur. On attendra aussi la suite. Hein. Et pour un sujet un petit peu plus gai, quoique, hein. Souvenez-vous, il y a maintenant quelques années, nous étions jeunes et beaux et nous regardions C'est pas sorcier. Mais après 20 ans et plus de 560 émissions, on retrouvera jamais en avril, mais seul. Fred, son binôme, a été viré en 10 minutes par France 3, explique-t-il révolté. Et ça se comprend, après 2 mois de travail pour la relance de l'émission, il apprend que pour cause économique, seul Jamy sera gardé. C'est donc la fin de cette série et le début du monde de Jamy. Et le spécial Franche-Comté, la franc-comtoise Célia Aymonier a remporté le 2e place sur le 10 km en ski de fond. Mm-hmm. Et donc, pour ses 23 ans, c'est une belle performance.
Bah merci Cassandra pour toutes ces infos.
Et ben merci à vous.
L'assiette du jour.
Et tout de suite, la rubrique recette avec Méline Dornier. Bonsoir Méline.
Bonsoir Anaïs.
Alors, donc, qu'allez-vous donc nous préparer ce soir?
Alors, ce soir, on va faire du guacamole. Mm-hmm. Alors, le guacamole, c'est idéal pour un apéritif entre amis ou en famille, comme vous le souhaitez. Alors, ce soir, ça sera une recette pour 6 personnes avec un temps de préparation de seulement 10 minutes. Il vous faut 2 avocats mûrs, quelques feuilles de coriandre, 1 ou 2 citrons verts, 1 oignon frais et du sel. Commencez tout d'abord par émincer l'oignon et les feuilles de coriandre. Écrasez les 2 avocats et ajoutez l'oignon et la coriandre. Ajoutez-y le jus des citrons et salez. Vous pouvez le laisser au frais ou le déguster directement et c'est idéal avec des nachos. L'astuce de cette recette, si vous préparez donc le guacamole à l'avance, vous pouvez éventuellement laisser le noyau dans le saladier. L'avocat gardera ainsi sa couleur verte.
Mmh, très appétissant. Et ben merci Méline et bon anniversaire au passage.
Merci, c'est gentil.
Tout de suite, les sorties culturelles avec Cyrielle Sitterly. Bonsoir Cyrielle.
Bonsoir Anaïs, bonsoir chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler des sorties culturelles de cette semaine. Tout d'abord, j'aimerais vous convier à un spectacle de danse époustouflant s'intitulant « De quoi tenir jusqu'à l'ombre ». Ce sont des acteurs professionnels qui ont la particularité d'être en situation de handicap. Le rendez-vous est ce soir à 20h au bain douche de Montbéliard. Il est proposé par la compagnie L'Oiseau Mouche et par le chorégraphe Christian Rizzo. Le tarif plein est à 16 euros.
Et pour les enfants, que peut-on trouver?
Alors, pour les enfants, il y a une expérience à l'adresse du très jeune spectateur, donc à partir de 1 an, pour aiguiser leur curiosité. Ça s'appelle Plein de petits riens. C'est une invitation à divaguer, à méditer. Dans ce parcours poétique et initiatique, théâtre d'objets, théâtre d'ombre se mêlent pour mieux nous embarquer dans cet univers fait d'associations, d'idées, d'images et de sensations. Le tarif plein est à 8 euros. Et cette découverte se fera mercredi 12 février à 11h à l'Arche à Bettencourt. Et enfin, parlons musique pour le concert Irish Legends qui se produira à l'Axona Montbéliard le vendredi 7 février à 20h, donc demain. Irish Legends offre un spectacle de danse, de musique et de chant chaleureux et éclatant aux couleurs de l'Irlande. Sur les rythmes frénétiques des claquettes irlandaises appelées tap dance, danseuses et danseurs venus des meilleures académies de Dublin et de Galway proposent un voyage éblouissant au cœur de la légende celte. Le tarif de ce spectacle varie de 33 à 39 euros. Plus d'informations sur le site de l'Axona de Montbéliard. Merci chers auditeurs, prochain rendez-vous jeudi 13 février avec Mathilde.
Merci Cyrielle.
L'émission musique.
Tout de suite l'émission musique avec Mathias. Bonsoir Mathias.
Bonsoir, comment vas-tu Anaïs?
Eh ben ça va, et toi?
Bah écoute, fort bien. Dis-moi Anaïs, si je te parle d'un courant musical qui est né aux États-Unis dans les années 70, à base de rimes, d'instrumental, à quoi est-ce que tu penses directement?
Directement, j'aurais pensé hip-hop.
Eh ben c'est la bonne réponse. En effet, ce soir, je vais vous accompagner pour essayer de vous présenter en 15 minutes ce mouvement bien souvent pointé du doigt et casser les clichés bling-bling, grosse voiture et femme nue, en essayant de vous présenter les codes permettant d'y prendre goût, mais il faut faire attention car c'est addictif.
Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche 200 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns pas drôles. À la profonde parole des puits de pétrole. Avant que la fortune soit subite. Tous les génies étaient stupides.
C'était un extrait d'artiste de Oxmo Puccino. Alors qui est Oxmo Puccino, pardon? Oxmo Puccino, c'est simplement un rappeur et artiste qui a produit, enfin qui est parolier pour Florent Pagny, Alizé, qui a fait des collaborations avec Kinan, Ben L'Oncle Soul ou encore Olivia Ruiz, donc c'est pas une petite figure, c'est pas un débutant. Et comme il le dit dans son titre Artiste de l'album Roi sans carrosse sorti en 2012, Artiste c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Oxmo Puccino aussi, comme tous les autres artistes en son temps, a une vision assez poétique de ce qu'il nous présente, et on peut le voir dans Panam, par exemple, qui est issu de l'album Roi sans carrosse, sorti en 2012, toujours.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale aux mi-pattes métalliques roulant dans ses bouches qui, à l'aube, crachent les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe. Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin. Nous, dès qu'on veut profiter d'elle un peu, la vie se complique. Courir sans la forme olympique vous trace le regard oblique.
Alors Anaïs, ça nous change un peu de ce qu'on peut trouver sur les radios actuelles, non?
C'est exact, c'est un autre genre, mais tout aussi appétissant.
Eh bien, il faut savoir qu'Oxmo Puccino, comme de nombreuses autres personnes, a fait des collaborations avec d'autres rappeurs, pour partager son amour de la rime et de la belle écriture, comme par exemple avec Hocus Pocus dans le morceau Équilibre, sur l'album 16 pièces, sorti en 2010.
Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre. Ah, je veux tendre les bras. Je ne trouve pas l'équilibre.
Face au vent, je ne fais pas le poids. Ma plume n'a qu'une masse dérisoire. Pieds nus sur le fil du rasoir. Et sous nos yeux, la balance s'incline. Là où la gravité s'obstine, le malaise s'imprime. Comme si la seule rime au mot inégalité était fatalité.
Pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que ce que nous venons d'écouter est un album du titre Équilibre, de l'album 16 pièces, sorti en 2010 du groupe Hocus Pocus. Alors, Hocus Pocus, qui est-ce que c'est? Je ne sais pas si tu connais, Anaïs.
Je connais et j'approuve. J'adhère même.
Eh bien, Hocus Pocus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe composé de Vincil, qui est MC, donc rappeur dans le langage, et compositeur, ainsi que de DJ Grimm, qui est au scratch, donc au platine. Si vous avez vécu dans une grotte ces 4 dernières années, vous ne connaissez sûrement pas C2C, mais il faut savoir que Vincil et DJ Grimm en font partie. C2C qui signifie coup de cross, cross signifiant le crossfader des platines permettant de faire le scratch. Et C2C sont surtout connus pour être quadruple champion du monde de DMC, le championnat du monde de Scratch. Mais il faut savoir qu'Hocus Pocus, ce ne sont pas que des titres assez poétiques, c'est aussi des réalités, et on peut le voir dans le titre Papa de l'album 16 pièces.
J'ai pris un coup de vieux quand ce mot m'a dit monsieur. Des piges de plus à chaque bout, je l'ai lu dans ses yeux. Chacun de ses regards me pousse à 2 mètres sous terre. Et c'est vrai que je pourrais être son père. Je crois que ce prénom m'irait pas.
Moi, tu le vois dans mes bras? Non, il n'aurait peut-être mes yeux, mon nez, ma bouche, à coup sur ma peau, car trop souvent plein les couches. Je suis pas prêt à prêter mes Lego, à mettre de côté mon ego, pas prêt à lâcher le micro, éviter les gros mots, à poser le stylo, écraser le mégo, partager mes haribos et mes jeux vidéo. Non.
Voilà, c'était un extrait de Papa de Hocus Pocus. On peut voir ici que Hocus Pocus, enfin Vincile dans la situation actuelle, casse les clichés de Lego Trip. Alors Lego Trip, qu'est-ce que c'est? Dans le milieu du rap, c'est simplement le fait de faire un morceau pour vanter ses mérites. Mm-hmm. Tout simplement. Mais il faut savoir que Vincile, qui nous parle ici du fait d'être père, donc vu qu'il est à peu près trentenaire et que ça correspond à son parcours, n'est pas le seul à parler de ça. En effet, il y a aussi Hippocampfou. Hippocampfou qui est un artiste parisien, un ancien membre de la secte phonétique. Pour ceux qui ne le savent pas, la secte phonétique est un groupe entièrement vocal, donc les instrumentales sont faites à la voix en beatbox, comme on appelle ça, avec du rap, des membres par-dessus. C'est aussi un amateur de cinéma, mais je vous propose d'abord d'écouter Papa au foyer d'Hippocampfou.
Je peux plus me gratter les bourses, faut que j'aille au supermarché acheter des couches. Chez moi y'a plus de bière mais du lait de croissance par pack. Que de douce, des purées, des petits suisses, du talc et des mouches qui volent au-dessus de la poubelle. Je la descends plus souvent que je palpe. Peu de flousse, je ne suis pas soigné, je ne paye pas le loyer. J'espère quand même être un bon papa au foyer. Mais je me sens comme oppressé, guetté par les huissiers. J'ai plus le temps, je suis pressé, je lis mes mails au WC.
Voilà, c'est un extrait de Papa au foyer d'Hippocampfou, qui est issu de l'album Aquatrip, qui est sorti en 2014, donc très récemment. Il est disponible chez tous les bons disquaires et je vous recommande de vous le procurer, car c'est une vraie perle instrumentale et d'écriture. Donc comme je le disais avant, pour ceux qui nous rejoignent, Hippocampfou est un grand amateur de cinéma, un grand cinéphile. Et en tant qu'étudiant en formation audiovisuelle, je ne peux pas me permettre simplement de vous présenter le rap et ses facettes sans vous faire écouter un extrait d'hymne au cinéma d'Hippocampfou.
Du rire d'Amadeus, au punchline d'oublier les bons films sont rares, s'apprécient comme des cadeaux. Il m'est arrivé d'avaler des soupes de navets spatiaux qui n'ont pas étanché ma soif, ébranlé ma passion, l'écran et ma glace. Donc mon esprit, comme quitté par l'orgasme, m'a suggéré d'écrire cet hymne au cinématographe.
Voilà, c'était Hippocampfou dans Hymne Cinéma, et je vais me servir d'ailleurs de ce morceau pour vous présenter quelques grandes ficelles du rap. Comme on peut le voir, il y a des citations de films qu'on appellera des samples dans le milieu, des samples qui sont simplement des extraits des issues de la culture, comme on pourrait dire, de la culture globale, pas forcément hip-hop, qui seront réutilisés dans d'autres contextes, donc pour montrer cet attachement à la même culture qui, au final, sert de base à tous les arts urbains. Mais le panorama du rap français ne s'arrête pas là, et ce serait très limité si je ne vous parlais que de Paris, puisqu'en effet, la province a son mot à dire, et l'animalerie le fait en beauté. Ce groupe de rap lyonnais, composé de grands noms tels que Kassem Wapalek, Anton Serra ou encore Dico, remue de plus en plus le milieu rap par une maîtrise parfaite de la langue de Molière, tout en rejetant la médiocrité des clichés actuels. Tous ces rappeurs, ces MC comme on pourrait dire, sont regroupés autour de Auster Lapoisse qui est leur producteur et donc qui fait les musiques instrumentales. Je vais vous laisser se présenter en musique un des membres de cette folle équipe.
Premièrement, je ne suis ni rappeur ni chanteur. Et à vrai dire, je me fous pas mal de tes commentaires. Je perds mon temps à faire le pitre comme Groucho. Ma vie, c'est pas le hip-hop, ma mère m'appelle pas Lucho. Oublie le côté exotique, tu me verras pas en soirée. Je vis le vide avec des livres dans 12 mètres carrés. Pour être honnête, je n'ai que l'ennui pour les chéris. Eux parlent de misère en exhibant leur Blackberry. Mon vrai prénom, c'est Ludo, fils d'un père ouvrier. À cheval sur les principes, le pied bloqué dans les triers. Jamais dans la tendance, comme un vieux Walkman Akai.
Voilà, c'était Lucio Bukowski, comme vous l'aurez pu le comprendre. Ce morceau intitulé Premièrement le présente, et je vais le compléter, puisque Lucio Bukowski est un grand cinéphile aussi, tout comme Hippocampfou, mais aussi un amoureux de littérature, et comme il le dit, il offre des sonnets en plastifiant des phonèmes. Donc ça peut bien refléter là son talent de la plume française, et il est grandement plébiscité par de nombreuses presses spécialisées, par contre, pardon. Il a sorti plus de 10 projets en 4 ans, il a fait ses débuts dans le slam, il a suivi des études de bibliothécaire, et on peut voir d'ailleurs dans toute son œuvre son envie de brassage des cultures et des sources d'inspiration totalement différentes, et le morceau le plus éloquent à cette image est Ode au grand Jacques.
J'arrive à Jeun, de là où les gens fuient l'orage. Les pieds dans le ruisseau et la colombe bien en cage. Je suis l'homme dans la cité, un peu dépravé. Je suis l'ombre des chansons, errant sur les pavés. Bien obligé d'en rire, quand on n'a que l'humour. Il y a bien la tendresse, mais le pendu vit sans amour. Depuis mon enfance et la gigio, voici 10 ans. Je pratique le hip-hop et la valse à mi-temps. Je ne sais pas si la lumière jaillira demain, au printemps ou jamais, mais pardon si j'en sais rien.
Voilà, c'était Aude au Grand Jacques de Lucio Bukowski. Ce morceau, donc, qui est entièrement composé de références à Jacques Brel. Je vous invite d'ailleurs à aller vous renseigner sur l'œuvre de Lucio Bukowski, ainsi que de Jacques Brel, puisqu'ils ont des similitudes dans leur parcours. Et Lucio Bukowski, comme tout bon écrivain, utilise ici différents procédés d'écriture comique. Celle qui m'a marqué particulièrement dans ce morceau, mais que je n'ai pas pu mettre dans l'extrait, est « Ne me quitte pas sans avaler une dernière bière », qui montre bien l'autodérision de Lucio Bukowski dans son œuvre. Et enfin, je vais vous parler d'un nounours, on pourrait dire. Un nounours, puisqu'il est décrit comme ayant une voix d'ogre avec un visage d'ange. Il s'agit de Scylla. Alors vous qui nous écoutez, ne quittez pas tout de suite. Même si la forme peut paraître beaucoup plus rude, le message reste toujours le même. C'est un message d'amour et de partage.
Il y avait 16 bêtes basses, parce qu'on pratiquait le même art en marche des masques. On avait choisi les mêmes espèces d'armes. C'était la passion pour la passion, pas de pif, pas de net, peu slip, pas de fan et pas de page artiste. Mais rien à battre, on vivait sans ça. Limite au tout départ pour moi, quand quelqu'un me disait frère, j'adhère, c'était impensable. La plupart des acteurs de cette époque ont sauté le pas de la zig, le taf, la fuite, le casse, la mif.
Voilà, c'était Scylla pour Le Gouffre. Pour ceux qui ne le savent pas, Le Gouffre est un collectif parisien de rappeurs. Et sur cette mixtape, sur ce projet qui est sorti très récemment, il y a plus de 64 différents rappeurs de tout style de rap en France qui ont participé. Je vous invite aussi à vous le procurer si ça vous intéresse, parce qu'il y a vraiment de tout et ça peut être une très bonne approche. Pour parler un petit peu plus de Scylla, c'est un rappeur belge, on pourrait l'appeler un vétéran puisqu'il a commencé à faire ses armes en 1992. C'est moins ouvert au grand public, c'est beaucoup plus technique et plus brutal, mais il partage toujours les mêmes valeurs que les rappeurs précédemment cités. Il nous parle ici donc de ses débuts dans le rap, tout simplement, et du respect qui existait et qui a tendance à être effacé par ce qui peut passer en radio, on pourrait dire en grande radio, qui sont plus là pour vendre des produits plutôt qu'inciter à la bonne écriture. Et enfin, comme j'ai bien conscience d'avoir longtemps abusé de vos oreilles, qui ne sont pas forcément habituées à ce style de musique, je vais faire la liaison avec le Técho. Le Técho, qui est une association byzantine créée en septembre, qui sert à promouvoir la musique électro sur les alentours de Besançon et en Franche-Comté. Ils ont créé la branche Thérapie, qui est une branche plus axée hip-hop depuis moins d'un an et qui organise des concerts et des diffusions d'artistes byzantins. Et le label Le Técho a d'ailleurs dans ses rangs un très grand artiste, en devenir en tout cas, qui s'appelle Inclose, qui a sorti son projet Funk très récemment. Il a réalisé 4 titres, dont un clip par le collectif This Is Not A Washing Machine, un collectif de graphistes. Je vous invite à vous renseigner et à aller trouver le projet sur internet. Down the bar, all alone in the time.
Merci Mathias pour toute cette culture rap et hip-hop que tu nous as apportée.
Eh ben je t'en prie, j'espère avoir donné envie à d'autres personnes de se renseigner sur ce mouvement et à bientôt.
Eh ben à bientôt. Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous d'avoir suivi cette seconde émission de Ma Radio. Merci également à toute l'équipe éditoriale, à Fred Geoffroy et aux techniciens Robin Housser et Jean-Noël Scherrer. Vous pouvez nous réécouter sur le site www.radio-bts-audiovisuel.com. Et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, 18h, pour une nouvelle émission animée par Nicolas Guidici. Bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Ma radio.